Médien.
Médien. Podcast.
Médien. Podcast. Bienvenue à toutes et à tous. Avec ma femme d'aujourd'hui, on va parler de diaspora, d'entrepreneuriat et de réseautage. On y va pour les détails.
Médien. Yasmine, femme d'aujourd'hui.
Khadija Hajdig, bonjour.
Bonjour, Lala Yasmine.
Merci beaucoup d'être ma femme d'aujourd'hui. Comment ça va, Lala Khadija?
Ben écoutez, je vais très bien, je vous remercie.
Mais c'est un plaisir de vous avoir. Alors vous, vous êtes installée en France, mais
exactement.
J'ai l'impression que votre cœur est constamment au Maroc.
Alors je dis toujours, on ne peut choisir entre son père et sa mère. Donc
ouais.
Le Maroc m'a vu naître. Je suis née au Maroc.
D'accord.
Et comme j'aime à dire, je suis arrivée en couche-culotte sur le sol français. Et la France m'a permis justement d'être la femme que je suis aujourd'hui et prête à donner davantage de mon expérience et de tout ce que j'ai appris à ma patrie et au royaume. On ne peut pas se défaire de là où on vient, de là où on est né. C'est en nous. On vibre pour le Maroc.
Alors, justement, ce lien entre le pays d'origine et la personne, et en l'occurrence vous aujourd'hui, comment il s'est tissé en fait, vu que vous êtes partie très petite? Est-ce qu'il se tisse à travers les histoires des parents, à travers les traversées d'été? À travers quoi il se tisse exactement, pour être aussi fort que ça?
Alors, il y a plusieurs, on va dire...
Canaux.
Liens. Canaux, justement. Le tout premier, bah, c'est cette traversée d'été. Hein. C'est l'été, retourner au pays tout jeune, où les parents voilà, rencontraient la famille et échangeaient avec les cousins, les cousines, grandir. En fait, alors, quand on était jeune, on avait ces 2 mois d'été. On avait la chance de pouvoir aller au Maroc ces 2 mois d'été. Et on y allait tous les ans, jusqu'à quasiment mes 20 ans. Donc ça, c'est le premier. Le deuxième, à la maison. Donc à la maison avec les valeurs... la cuisine, la langue, Darija, Tamazight. Et j'ai eu la chance d'avoir un père qui a œuvré aussi, donc qui faisait partie de l'amicale. En fait, c'était vraiment d'accompagner les MRE à l'époque, donc c'était le tout début. Hein, et qui avait cet engouement pour la patrie, qui œuvrait justement auprès des consulats, qui créait le lien entre les MRE, donc les Marocains de l'étranger, et les institutions marocaines. Il a eu la chance aussi de pouvoir voilà, assister au Eid al-Adha, donc de feu Sa Majesté Hassan Tani Rahmoussa. Donc c'est tout ça en fait qui fait eh ben, qu'on vibre et on ne peut pas se détacher de ça en fait, parce que nos parents ont initié ça. Et alors à nous de reprendre le flambeau justement au travers de l'associatif et encore plus aujourd'hui parce que je représente en fait au sein de ma société, donc je gère aussi l'Afrique du Nord et le Maroc. Donc le lien est là.
En tant que coprésidente de la commission entrepreneuriat, c'est ça?
Voilà, la commission entrepreneuriat du HCDAF et je suis aussi donc Customer Service Manager donc chez Ecolab de l'Afrique du Nord en fait. Donc le lien se fait au travers de tout ça. Je suis aussi membre du Cercle Jeune de la Croix. Donc le Cercle Jeune de la Croix œuvre donc justement pour l'amitié franco-marocaine au travers d'élus et aussi du Club des entrepreneurs.
Alors l'association, c'est une association, le Haut Commissariat des Diasporas Africaines de France?
Oui, c'est une association donc, qui était aujourd'hui présidée par Rachida Kaout. Donc c'est vraiment créer le lien, donc l'amitié France-Afrique au travers de l'entrepreneuriat.
De l'entrepreneuriat. Vous êtes chef d'entreprise vous-même, c'est bien ça?
Alors, je le souhaite, je ne le suis pas encore.
Ouais. Alors, comment ça se fait, justement, que vous soyez dans cette dynamique-là pour les autres, mais pas forcément pour vous?
Alors, on m'a toujours posé la question, on m'a dit, mais il y a un décalage entre gérer une commission donc, entrepreneuriat, vous êtes actif dans la part entrepreneuriat, et j'ai envie de dire que quand on est cadre supérieur, eh ben, on est un peu aussi entrepreneur, en fait.
Ouais.
On doit piloter les activités, on doit soutenir le business, on doit... s'assurer aussi de mettre en place les process, tout ce qui est nécessaire pour faire grandir la société. Et quelque part, ben, on est entrepreneur parce que ben, on est maître de ses propres décisions au sein même d'une entreprise. Et alors, je vais vous raconter la petite anecdote de Lala Yasmine. Alors, quand j'étais jeune, donc au lycée, donc j'ai fait partie, au fait, d'un projet qui était les jeunes créateurs d'entreprise. Et donc, c'était donc les cours le samedi matin. Et là, c'était du bénévolat. C'était vraiment sur notre temps personnel, sur comment créer une entreprise, comment créer un business plan, etc. Et j'avais un projet à l'époque et qui avait été, comment dirais-je, trouvé trop avant-gardiste. Mais trop peur d'avoir raison trop tôt. Et finalement, bon, j'ai pas été lauréate. Mais c'était déjà quelque chose qui est en moi. Et c'est quelque chose qui vibre en moi. Et je pense qu'un jour, je passerai le cap. Et c'est une certitude.
Alors, ça veut dire que pour vous, il n'y a pas d'âge pour entreprendre?
Pas du tout.
Ouais.
Pas du tout. J'ai des amis. Moi, j'ai un ami qui a été 30 ans dans le monde de la pharma. D'ailleurs, je lui fais un petit coucou à mon cher Mouloud. Et qui, à 55 ans, s'est lancé dans l'entrepreneuriat. Il n'y a pas d'âge.
Il n'y a pas d'âge. Est-ce que, de par votre expérience, justement, étant donné que vous êtes dans ça au niveau associatif et aussi dans votre boulot, est-ce que l'idée de l'entrepreneuriat se démocratise aujourd'hui?
Tout à fait. On le voit tous les jours. Je veux dire, aujourd'hui, entreprendre, quand on veut, on peut. Quand on a l'idée et quand on a l'envie. Et je ne veux pas oublier aussi de s'entourer. Et ouais. Là, je vais mettre le point sur quelque chose qui est extrêmement important aujourd'hui, le réseau, son networking, s'entourer des bonnes personnes, faire partie des associations comme le Haut Commissaire à la Diaspora Africaine, le Cercle Jeune de la Croix, toutes ces belles organisations qui permettent justement de créer du lien et de grandir et de se dire « mais c'est possible ». Et donc aujourd'hui, c'est très important le réseau et le networking.
Alors quand on parle de réseau, en général, de par l'expérience des interviews que j'ai pu avoir, c'est qu'on parle surtout de réseau et de networking comme étant une chose beaucoup plus facile pour les hommes que pour les femmes. Le networking a toujours été, on va dire, perçu comme le after work meeting. Et on sait combien les femmes, quant à elles, en fait, eh bien, je pense que ça, c'est dans de nombreuses sociétés, pas uniquement celle du sud de la Méditerranée, mais où finalement, quand elle donne une journée de boulot, elle, lorsqu'elle est mariée, qu'elle a un foyer, etc., le reste de la journée ou le reste de la soirée, elle doit le consacrer à son foyer. Elle se sent cette obligation de faire ça. J'en ai parlé avec beaucoup de femmes aussi, entrepreneurs, chefs d'entreprise au Maroc, et cette histoire de réseautage est compliqué en fait pour la femme.
Alors j'ai envie de dire, alors je vais peut-être surprendre, mais quand on veut, on peut. Et quand je vois aujourd'hui toutes ces belles femmes, toutes ces belles âmes entrepreneurs et qui font partie des différentes associations, je prends juste la CGEM,
oui.
il y a les Ladies by CGEM qui aujourd'hui dont fait partie Lala Fatima. Et aujourd'hui, tout ce réseau de femmes, quand on veut, on se crée du temps. Et c'est cette force aujourd'hui, j'ai envie de dire, quand on veut, on peut. Malgré tout ce que vous venez de dire, en fait, avec les enfants, etc. Mais j'ai envie de dire, quand on veut, on peut. Et on crée les solutions justement pour se donner du temps. Quand on est vraiment investi, impliqué et qu'on a envie de mener les choses, on y va. Quand je vois que le Technoparc Barclay est l'idée par la mienne.
Et c'est une question que j'ai envie de lui poser, c'est comment elle fait. Et puis, comment ça se passe ensuite à la maison? Comment ça se passe dans un cercle privé quand on est autant à l'extérieur?
Comme je vous dis, c'est une question d'organisation. Et la mienne, j'ai eu la chance de la rencontrer à Paris et de discuter avec elle lors des 25 ans de Maroc Entrepreneur, qui aujourd'hui est l'idée par une femme, Zainab Hatim. Donc voilà, toutes ces femmes aujourd'hui, j'ai envie de dire, pendant des années, c'était le côté masculin de l'entrepreneur.
Oui.
Mais aujourd'hui, il y a quelque chose que j'aime beaucoup, c'est que demain, on ne parlera pas de leadership au féminin. On dira, je suis CEO, je suis leader, peu importe. Il n'y aura plus cette notion de féminin, parce qu'on aura enfin, et je crois qu'elle est déjà là, cette légitimité, la question ne se pose plus. Et vous le partagez très bien au travers des différentes émissions que vous faites et des podcasts que vous faites. On voit bien, et quand on est animé par quelque chose et on y croit, et on crée aussi un environnement qui nous permet justement de partager tout ça autour de nous.
Mmh. Absolument. Non, je suis. En fait, c'est très beau ce que vous dites, que bientôt on n'aura plus de leadership au féminin, management au féminin, etc. C'est comme si, en fait, il y avait la particularité. Mais bon, et le débat existe encore. Hein. Certains vous diront non, 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 il y a le leadership au féminin, le management au féminin, etc., la gestion au féminin. Parce que la femme, dans son essence, est différente de l'homme. Et ce n'est pas plus mal, parce que ça veut dire que la femme ne veut pas ressembler à l'homme. Elle ne veut pas se masculiniser dans l'espace professionnel.
Je rejoins complètement. On a cette part de nous. C'est-à-dire que on est femme. Et on a, je vais dire, des choses en plus. Cette sensibilité, cette empathie. Après, on est tous différents. Mais on a notre, je vais dire, notre apport, notre pierre à l'édifice. En fait, c'est à nous. Si on le souhaite, on peut changer les choses, en fait. Et j'ai pas besoin, et c'est vrai ce que vous dites, parce que souvent, on a ce côté, en fait, quand on n'a pas encore vraiment confiance en soi, ce mimétisme, en fait. Donc, quand on se lance dans l'entrepreneuriat, souvent, bah, les pionniers, bah, c'était la gente masculine. Mmh. Donc, on a ce mimétisme. Et aujourd'hui, on a la chance d'avoir ces femmes qui sont belles, j'ai envie de dire, qui ont une très belle réussite. Si on prend notre ministre de la transition numérique,
Oui.
Et voilà, également que j'ai eu l'occasion de rencontrer à Paris et j'ai échangé quelques mots avec elle. Ça donne envie. Et aujourd'hui, en fait, ce mimétisme se fait aussi maintenant au travers des femmes. Donc on a des rôles modèles, j'ai envie de dire, aujourd'hui, qui nous permettent justement et qui disent mais, oui, je peux, je suis une femme, oui, certes, avec tout ce que ça implique, mais. Il y a une phrase que j'aime à dire, la Yasmine, c'est
oui.
quand on veut, on peut.
Oui, mais on ne vit pas seule.
Et rien ne vous empêche.
Mais on ne vit pas seule, en fait.
Non. La trajectoire que me concernant moi aujourd'hui,
oui.
Il y a 20 ans, je n'aurais jamais imaginé déjà ma très belle carrière au sein de ma société, qui est une multinationale américaine. Ce parcours associatif, et c'est mon père qui me l'a transmis, ce parcours aussi patriotique, en fait, d'être proche des institutions, d'œuvrer aussi pour la patrie. Tout ça, en fait, mis bout à bout, fait que... Bah, et aujourd'hui, on a la chance d'avoir ces rôles modèles, vous les représentez aussi.
Merci.
D'avoir avec la DSM. Et tout ça fait qu'aujourd'hui, oui, et ce n'est que le début.
Et justement, on a besoin de ces rôles modèles... nationaux, en fait, locaux.
Exactement.
Ouais.
Et cette richesse, en fait, j'ai cette double culture. Et cette double culture me donne davantage de légitimité pour œuvrer, justement, pour ma patrie, avec les dernières reconnaissances qui ont été faites par l'État français. Donc, ça me donne davantage de légitimité, d'œuvrer encore davantage et de plus avoir, j'ai envie de dire, de freins ou autre, non. Et ça fait partie de nous.
Ouais.
Voilà, on vibre. C'est, comment vous dire, ma fille, j'ai une fille qui a 13 ans, et la dernière fois, elle m'a dit « Maman, je veux le maillot de l'équipe de foot marocaine.
Ouais. »
Ça m'a fait énormément plaisir, parce que je me dis « Voilà, ma fille, elle est née en France, elle a grandi ici. » Mais pareil, je lui ai transmis cet amour de la patrie. Et de l'avoir porté le maillot de l'équipe marocaine, ça fait chaud au cœur.
Ouais.
Et de l'avoir vibré pour les matchs, ça commence par des petites choses comme ça.
Absolument.
Ça commence aussi par et de les aussi de faire aussi ce que nos parents ont fait, de leur faire découvrir le Maroc, de leur faire aimer le Maroc. Et ça, je veux dire, c'est la responsabilité de chaque parent justement de donner de créer ce lien envers la patrie, vis-à-vis aussi envers les enfants.
Mmh.
Donc, c'est notre devoir aussi.
Alors, quand vous dites, il y a 20 ans, je ne m'attendais pas du tout à avoir ce parcours, pourquoi ?
Alors, pourquoi ? Parce que, vous savez, souvent, vous ne vous sentez pas légitime.
Mmh.
Parce que vous êtes, on vous catégorise, hein, vous êtes fille d'immigrés. Et une fois, ça m'avait interpellée, j'étais au collège, on avait une discussion sur la République, etc. Et on me dit, et vous ? Et chez vous, ça se passe comment ? Je dis, pardon ? Je dis, mais je suis aussi enfant de la République, donc je ne comprends pas le vous.
Le vous, oui.
Et en fait, on essaie de vous mettre dans des cases. Et inconsciemment, bah, ça crée un certain syndrome de l'imposteur. Donc vous dites, est-ce que je suis légitime ? Je ne le suis pas. Et vous avez toujours ces doutes, ces questions. Pourtant, vous avancez, vous œuvrez. Vous êtes reconnu, vous réussissez vos études, vous partez à l'étranger. J'ai été étudier en Angleterre et vous avancez. Et puis, à un moment donné, vous dites, bon, alors, maintenant, ce syndrome de l'imposteur, on va le mettre un.
Jusqu'à quand ailleurs, je le garde
et, et on va œuvrer. Et on a la chance aussi, ben, quand on se rend compte aussi, de se faire accompagner. Mm. Et ça, moi, je tiens mon chapeau à tous les coachs aujourd'hui. Qui ont des principes et des valeurs qui, justement, œuvrent et aident. Et alors, quand vous faites le switch, quand vous voilà, vous, vous débarrassez de ce syndrome d'imposteur, et là, ben c'est le champ des possibles, en fait.
Absolument.
Et on choisit. Et je dis toujours, et une dernière chose, je dis toujours aux personnes que je rencontre, à mes propres équipes,
ouais.
On your future.
Ouais.
Vous œuvrez pour vous.
Oui.
Donc, même si on a essayé de vous mettre dans des cases, et ben après, ça vous appartient aussi.
Alors, en parlant de... du syndrome de l'imposteur. Quand on arrive à s'en débarrasser et à s'en défaire, est-ce que ça arrive que parfois, face à des nouveautés, en fait, il vous rattrape ?
J'ai envie de dire toujours,
oui,
et c'est le constat qu'on a fait. Dans ma société aussi, je co-lead en fait l'ERG. Donc, c'est un groupement en fait dans l'entreprise en fait qui est E3. Donc, c'est pour le développement de la carrière des femmes dans le monde de l'industrie. Et justement, cette année, on a mis en place justement un axe justement sur le syndrome de l'imposteur qu'on est en train de déployer dans toutes nos usines en fait en France et que je lead d'ailleurs cette activité. Et le constat est... À chaque nouveau challenge, c'est, on a toujours, finalement, il est toujours là.
Oui.
Mais il est moins fort.
Je vous l'accorde.
Vous avez déjà fait le switch, donc vous savez comment activer, au fait, les bonnes clés pour justement s'en défaire rapidement. Mais on ne s'en sépare pas.
On ne s'en sépare pas.
On s'en débarrasse très vite.
On ne s'en sépare pas. Et en même temps, enfin, moi, là, je fais partie de cette génération, je ne sors pas du tout du lot. Du syndrome de l'imposteur que j'ai traîné pendant très, 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 très longtemps. Et peut-être c'est ça qui m'a poussée peut-être à aller vers d'autres études, à essayer de, justement, de faire, d'aller en Angleterre aussi, de faire un MBA, etc. Et puis au bout d'un moment, on se dit, bon, qu'est-ce que je vais faire d'autre, en fait? Je pense qu'enfin, je mérite ma place et je mérite ma réputation, presque. Mais face au changement, en fait, il y a eu encore, je l'ai senti se réveiller. Je l'ai senti émerger, en fait. Et ça m'a déplu.
Et comment vous avez, justement, switché? Comment vous l'avez... vous avez passé le cap?
De quoi? De dépasser le syndrome de l'imposteur?
Oui. C'est quand il est arrivé de nouveau, comment vous avez... comment vous avez, justement...
je ne sais pas si...
Qu'est-ce que vous avez activé? Quelles sont les clés que vous avez activées?
Oui, alors, ce que j'ai activé, c'est d'abord, je sais ce que c'est, je connais. Ça m'a déjà attrapé, ça m'a déjà eu, mais à la limite, je le remercie parce qu'il m'a poussé à devenir qui je suis, en fait, à aller chercher plus d'intellect. Donc, je le remercie pour ça. Et ça m'a aussi, en fait, permis de retrouver une forme d'humilité, que, attention, je reste fragile par rapport à ça. Mais que c'est quelque chose que je connaissais, que je ne vais pas dire je peux cope with it, je n'arrive pas à trouver le terme, m'acclimater avec.
Oui, on vit avec quelque part, il est en nous. Hein.
Oui, il est là, il est là, il est là.
Mais quand on est conscient des choses.
Oui, je ne peux pas dire que il s'est déclenché et ça y est, je ne le ressens plus. Non, je sens presque une forme de vulnérabilité en me disant finalement, il peut ressurgir à n'importe quel moment ce syndrome de l'imposteur.
Exactement. Et le fait d'en être conscient, c'est une force.
En fait, le fait d'être conscient ou conscient de n'importe quelle faiblesse, n'importe quelle faille plutôt, n'importe quelle faille en nous en tant qu'être humain. Voilà.
Ça... Et c'est quelque part, c'est ce qui fait notre richesse, c'est de se dire, mais rien n'est acquis. Vous savez,
absolument,
rien n'est acquis.
Absolument, absolument.
Et se dire, en fait, j'œuvre encore, je continue. Et sortir de cette zone de confort, une fois qu'on a justement un peu taclé ce syndrome de l'imposteur, on est sorti de cette zone de confort. Et en fait, c'est comme si c'était, une seconde jeunesse, un second souffle. Et ça ouvre le champ des possibles. Et là, j'ai envie de dire, plus rien vous arrête.
Oui, parce que, en fait, quand on en sort la première fois, On se dit plus rien n'est possible, n'est impossible. Plus rien n'est impossible. Par contre, quand il revient, on reste. Enfin, moi, je suis restée sur rien n'est impossible, mais en même temps, tu n'es pas sortie d'affaire. Je ne sais pas comment passer le message.
Oui, parce que tu dis, ah non, il est là de nouveau.
C'est ça. Exact, exact. Alors, Leila Khadija, qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter? En tout cas, c'était un plaisir d'échanger avec vous et merci de m'avoir challengée face à ces questions aussi. Qu'est-ce qu'on peut faire pour vous? Qu'est-ce qu'on peut faire justement en tant que communauté des femmes d'aujourd'hui?
Eh bien, continuer à œuvrer comme on fait aujourd'hui. Plus de liens, j'ai envie de dire. Davantage de visibilité. Et aujourd'hui, quand on est marocaine... Pour la femme, je parle pour la femme.
Ouais.
Et aujourd'hui, j'ai envie de dire, la femme marocaine, peu importe où elle est, reste une femme marocaine. Et justement, arrêter ces clivages, nous sommes des Marocains, point. Pas de Marocains du monde, pas de diaspora, nous sommes Marocains. Et on a chacun et chacune, j'en dire notre propre expérience. Vous allez prendre une Marocaine qui est du fin fond, parce que je suis née dans le sud du Maroc, je suis née dans un village qui s'appelle Zaouit Sidi Menzil, entre Zagora et Ouarzazate. Mais cette femme aussi, qui aujourd'hui quitte son village et qui s'installe en ville, etc., c'est un challenge pour elle. Et une femme qui fait le chemin inverse, en fait, qui est installée à l'étranger en France et qui souhaite revenir et travailler au Maroc. Mais c'est pareil, en fait, on reste, c'est la femme marocaine. Il faut célébrer la femme marocaine. Il faut créer cette unité de la femme marocaine. Peu importe, et on a toutes nos expériences, peu importe le pays où on vit, on reste. Et c'est ça notre fierté, en fait, c'est la femme marocaine. Donc c'est vraiment cette unité, en fait, de femme marocaine. Et c'est ce que je souhaite aujourd'hui plus que tout.
Ça vous embête, cette appellation de Marocain du monde ?
C'est pas que ça m'embête, parce qu'il faut donner davantage de voix justement aux Marocains du monde. Et d'ailleurs, je porte aussi ce projet donc de Marocains du monde, qui verra le jour, je l'espère, dans quelques mois. Mais de se dire, on est Marocain. Après, oui, il y a les Marocains du monde et on reste Marocain. Donc c'est pour ça que le mot diaspora, Marocain de l'étranger, non, on est Marocain.
Absolument, avant tout.
Avant tout.
Alors,
et à nous de le transmettre davantage.
C'est ça. Alors, Leila Khadija Hajding, merci infiniment d'avoir été ma femme d'aujourd'hui.
Et bien, merci beaucoup, Leila Yasmine, et à très bientôt.
À
et
très,
bravo
très
pour
vite.
Tout ce que vous faites.
Merci beaucoup, Leila. Merci à toutes et à tous pour votre confiance. Femme d'aujourd'hui et sa version homme, c'est du lundi au vendredi sur les ondes de Média et à tout moment, à la demande et en avant-première, sur Média Podcast et les plateformes de podcast habituelles.